Bonjour et bienvenue dans le podcast Journal d'une curieuse créative. Je suis Chloé, éleveuse de chèvres angora, de brebis limousines et depuis peu de brebis hampshire et fondatrice de l'atelier Fibrelaine. Je suis avide d'apprendre, de créer et de partager mes découvertes avec vous. Ce podcast est là pour vous inspirer à vivre la vie que vous voulez vraiment. Je vous emmène chaque mois dans ma vie paysanne et créative. Revenir à l'essentiel pour vivre une vie authentique. Nous sommes dans le 5e épisode de ce podcast et au menu, il y aura le segment à la ferme où je vous parlerai du mois de juillet et d'août avec les moissons, mes petites récoltes de mûres, de plantes, l'arrivée des brebis hampshire sur la ferme et aussi ma visite dans deux régions de France avec des éleveurs de moutons et des bergers. Il y aura également le segment l'atelier Fibrelaine où je vous parlerai de mon salon mi-juillet des estivales de la laine à Auton et également du nouveau fil qui est en préparation dans la boutique que je tiens. Pour les lectures, une nouvelle saga. Et au niveau curiosité, je vous parlerai un petit peu de plantes médicinales et de ma redécouverte du monde végétal. Alors, le mois de juillet a été consacré, donc bien sûr toujours au maraîchage, au désherbage et aux récoltes principalement. Et pour les autres ateliers de la ferme, il y a eu un gros chantier, c'est donc les moissons. Donc les moissons ont eu lieu début juillet, je crois. Non, et elles ont eu lieu après le 15 juillet. Donc c'est le moment où on récolte en fait le grain pour l'alimentation des animaux. Donc nous on fait un métail qui est un mélange de céréales et de légumineuses. Donc on utilise du triticale, c'est un croisement entre du blé et du seigle. On utilise de l'avoine et également du pois. Donc tout ça est mélangé, semé en même temps et récolté en même temps. Donc ce mélange nous sert principalement pour nourrir les jeunes, pour qu'ils grandissent bien, les chèvres et les agneaux. Et aussi on en donne aux mères avant les mises bas, pour qu'elles soient en forme évidemment, et qu'elles produisent suffisamment de lait pour nourrir leurs petits. Donc ça a été un peu stressant cette année parce qu'on a monté un silo, c'est un gros cylindre qui nous permet de stocker le grain pour l'année en fait. Et donc on a été c'était un silo d'occasion. Donc on a été le démonter chez le paysan qui le vendait et on n'avait pas trop noté l'emplacement des tôles parce qu'on pensait que c'était standard. Et en fait, ça ne l'était pas. Donc on a mis un petit peu de temps à le remonter, ça a été un petit peu compliqué. Et on avait un petit peu la pression de... En fait, l'entrepreneur pouvait nous appeler assez rapidement d'un jour à l'autre pour dire qu'il allait moissonner. Et nous, fallait qu'on soit prêts, sinon on devait mettre le grain dans des big bags pour ensuite le remettre dans le silo. Donc on s'est quand même dépêché et c'était une des priorités du mois de juillet et il y a eu pas mal de soucis, donc notamment au remontage. Ensuite on a dû on a dû le sceller avec du ciment. On avait pris un sac de ciment un peu ancien, ça n'a pas tenu, on a dû refaire. C'était assez assez stressant et juste après que les moissons aient été terminées et le grain dans le silo, j'ai été malade. Je crois que la pression est retombée. J'ai eu un petit rhume, voilà, le nez qui coule. Mais donc le grain est rentré, il est très beau, les grains sont assez gros. Il est bien équilibré entre le triticale, l'avoine et le pois. Et on a 9 tonnes à peu près, donc c'est suffisant pour l'année. Donc avec ces moissons, c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions sur la ferme et un petit peu la qualité de vie à la ferme et notamment la pression qu'on se mettait et le stress un petit peu dans lequel on vivait. Donc j'ai identifié en fait plusieurs facteurs de stress que je connais bien au fil des ans et que j'essaie de diminuer, mais c'est quand même assez compliqué. Donc il y a le stress, un des stress auxquels on doit faire face, c'est le stress financier, bien sûr. Donc produire suffisamment et de bonne qualité pour vendre nos produits et en vivre. Et il y a aussi un des stress les plus importants et avec lequel j'arrive pas trop encore à me raisonner, c'est vraiment le stress du temps. J'ai toujours l'impression qu'on n'aura pas le temps de faire les choses. Et quand je dois réparer une clôture, j'ai toujours l'impression que je vais mettre 3 jours, alors qu'en une après-midi, c'est fait. Quand je dois aller chercher un matériel, atteler un matériel, j'ai toujours l'impression que ça va me prendre 1 heure, alors qu'en 20 minutes, c'est fait. Et finalement, ça, c'est un des stress que j'ai le plus de mal à maîtriser et qui est toujours dans ma tête. Et l'autre stress, c'est de ne pas suffisamment connaître, savoir et de ne pas être assez compétente. Et ça, c'est vrai que c'est moins que le stress financier et le stress du temps, mais c'est quand même là. Voilà, donc j'imagine que c'est un petit peu les mêmes stress dans tous les métiers, toutes les vies, mais je voulais vraiment essayer de les identifier, de mettre des mots dessus pour essayer de les maîtriser et de les reconnaître un petit peu quand ça arrive. Voilà, parce qu'il y a des fois on est tendu, on ne sait pas pourquoi, et de savoir, je trouve que ça aide à se raisonner, à se poser les bonnes questions et à relativiser surtout. Mais il y a eu des moments très agréables aussi à la ferme, et notamment c'est une saison où, en juillet et mi-août, fin août, où il commence à y avoir des mûres notamment, et on a récolté pas mal de mûres, donc ça c'est toujours agréable. J'ai fait du vinaigre de mûres, c'était la première année, donc pour la maison. Et on a récolté aussi quelques framboises, je vous parlais de mon rang de framboisier il y a quelques temps. Donc on l'arrose un peu parce qu'il a fait sec. Et malgré ça, il y a quand même des pieds qui ont péri. Mais ceux qui sont encore là, et notamment les pieds qui donnent plusieurs fois les remontants, donnent des belles framboises. Donc on arrive quand même à récolter quelques poignées de framboises. Je pensais pas du tout pour la première année, mais si. Donc je suis très contente. J'ai aussi récolté dans le maraîchage des fleurs de camomille. Donc on la désherbe la plupart du temps, mais là voilà, je voulais en récolter un petit peu pour mes tisanes et puis pour faire de la déco de savon. Donc c'est assez long à récolter et en séchant ça diminue évidemment. Et j'ai un petit peu fait une erreur. Je voulais tout mettre dans le même pot en fait, donc j'ai un petit peu tassé et je me suis aperçue assez rapidement, heureusement, que le fond commençait un petit peu à moisir. Donc j'ai enlevé les fleurs abîmées et j'ai remis dans 2 pots différents pour que ce soit vraiment aéré. Voilà, ça c'est. Faut que je fasse attention la prochaine fois de bien laisser les plantes bien aérées et de pas trop tasser dans les pots. L'autre événement marquant de ces 2 mois et de fin août précisément, c'est l'arrivée d'un petit troupeau de Hampshire Down. Donc ce sont des agnelles, ce sont des jeunes femelles de l'année. Et je vous en parlais dans l'épisode de juin. J'avais été visiter donc la ferme de Frédéric et Olivier Turgot, qui sont éleveurs de moutons Hampshire Down dans l'Orne. Et donc on avait bien discuté, j'avais visité leur élevage, j'avais vu leurs moutons qui étaient vraiment très très beaux de par la race, mais aussi parce que je pense que ce sont des très bons éleveurs, ils ont des animaux très uniformes, enfin c'était vraiment un plaisir de les voir. Et donc j'avais réservé 30 agnelles pour augmenter moi mon cheptel ovin, et ils me les ont livrés donc le 28 août, il n'y a pas très longtemps. Donc il y a 30 nouvelles pensionnaires à la ferme. C'est vraiment une très très belle race. Et ce sont vraiment de très belles années. Donc là, on est un petit peu dans la phase de... On a dépassé la phase découverte. Là, on est dans la phase apprivoisement. Je les ai mis avec mes années de renouvellement également. Donc ça me fait un petit lot de 50 animaux. Et c'est marrant de les voir se rencontrer, se connaître. Et au début, ça faisait deux lots séparés, mais mes Aniel Limousine restaient ensemble et les Hampshire restaient ensemble. Mais maintenant, elles se mélangent, elles viennent manger le grain ensemble. Les déplacements se font bien, donc c'est vraiment vraiment super. Et donc en parlant de visite, j'ai aussi eu la chance cet été d'aller à un salon pour la laine et j'ai logé chez une amie qui est éleveuse de moutons. Donc elle élève des mérinos d'Arles, donc dans les Alpes de Haute-Provence, au-dessus de Sisteron, pardon, dans le massif des Monges. Donc j'ai passé quelques matinées, quelques soirées avec elle. Et ça a été vraiment très intéressant parce que, bien sûr, on est allé soigner ces bêtes ensemble, on a aidé des voisins à rentrer leurs petites bottes. Enfin, j'étais contente de cette mini-immersion dans une région et un système d'élevage, des pratiques différentes des miennes. Et c'est marrant comme chaque éleveur a bien sûr ses pratiques, mais aussi en fonction, pardon, des régions, du climat, de l'environnement, comme chaque chose est différente et spécifique. Donc ça a été vraiment, vraiment intéressant de la voir travailler avec ses chiens de berger, ses chiens de troupeau. C'est vraiment, vraiment un autre système. Donc elle a d'autres problématiques que les nôtres, notamment la cohabitation, donc entre guillemets, avec le loup, le manque de terre un petit peu pour faire pâturer ses animaux. Et c'était intéressant de parler de ça et de parler de son vécu, de son ressenti en tant qu'éleveuse. Et donc j'ai également eu la chance, on est parti 3 jours en vacances avec mon compagnon dans les Pyrénées pour aller voir donc un ami à nous qui est berger dans le Béarn vers le pic du Midi d'Ossau. Et donc là c'est encore un système différent, donc lui il garde des brebis laitières, des basco-béarnaises je crois. Il en a 250, je crois, en garde. Et il les trait au début de l'alpage. C'était la fin de la traite. Il commençait à tarir les animaux. Et déjà, c'était grandiose. Moi, j'avais jamais été dans ce coin-là des Pyrénées. C'est vraiment des espaces immenses où l'œil a du mal à se représenter l'échelle, je crois. Et donc, on l'a accompagné en fait quand il allait monter ses brebis. Donc, il part à la journée faire pâturer ses brebis sur son quartier. Et c'est marrant parce que c'est une montagne très partagée. Donc, il a ses moutons. L'éleveur lui confie ses moutons. Mais il y a aussi sur cette montagne des vaches et des chevaux. Voilà, cette montagne est très partagée, c'est très très vivant, on entend les cloches et c'est aussi un autre élevage. Et c'est très très intéressant de voir la relation un petit peu différente qu'il y a entre des animaux à viande et des animaux laitiers. Voilà. Et pour moi qui élève des moutons en Limousin où l'herbe est quand même assez présente, assez dense et abondante. Bon, pas en ce moment, c'est vrai. C'était très drôle de voir cette montagne énormément pâturée, finalement ras, et de voir que les plantes sont très différentes. Donc là-haut, c'est principalement du nard raide, et c'est une plante, comme son nom l'indique, assez raide. Et les brebis, ils font attention de ne pas les sortir trop tôt le matin. Ils attendent que la rosée soit levée. Parce que sinon, en fait, elles ont des gerçures aux lèvres. Le froid, le vent, le sec. Et puis cette végétation un peu rude qui abîme les lèvres des brebis. On a vu des oiseaux vraiment majestueux, notamment des rapaces. On a vu un vautour percnoptère, on a vu des vautours fauves, on a également vu le gypaète barbu, on a vu un aigle royal. Enfin voilà, c'était la totale. C'était vraiment dépaysant et ça a fait beaucoup de bien. Et moi j'ai beaucoup aimé voir ce système d'élevage et la vie de berger. Je pense pas que je pourrais ni saurais être bergère, mais c'est un peu une vie idéalisée, je pense beaucoup. Mais voilà, il vit dans un chalet, dans la montagne, il se réveille, il y a les cloches des chevaux, des vaches, des brebis, il voit les oiseaux, c'est une tranquillité et une solitude qui me font envie parfois. Voilà donc juillet et août résumé pour la ferme. Voilà donc des nouvelles brebis, Hampshire, enfin des agnelles Hampshire, des récoltes et la gestion du stress. L'atelier fibrelaine. Alors c'est des mois un petit peu spéciaux pour moi parce que j'ai un petit peu moins envie de tricoter. Alors j'ai quand même tricoté à la main, j'ai quand même travaillé sur mes machines à tricoter pour m'entraîner et apprendre, toujours apprendre, savoir m'en servir de mieux en mieux pour être efficace et faire vraiment ce que j'ai envie. J'avais tricoté une étole, là je suis en train d'en refaire une avec un point un petit peu différent. Et je m'entraîne aussi sur ma machine à tricoter des chaussettes, ma machine circulaire. Je m'entraîne pour faire des côtes pour les chaussettes. Et je maîtrise pas encore, faut encore que je m'entraîne, j'y arrive pas du tout. Je sais pas si c'est un problème de tension ou de fil, mais j'ai beaucoup de mailles qui sautent et il y a des trous. Donc voilà, je m'entraîne, je fais des tubes troués pour l'instant et j'espère que ça s'arrangera avec le temps. Sinon, je suis en train de beaucoup travailler le nouveau fil que je propose, donc le Caprinae. Donc je suis contente parce que je trouvais que dans la gamme de fils que je proposais, ça manquait un petit peu d'avoir un fil lisse. Et là, c'est un fil que j'aime beaucoup et plus je le travaille, plus je l'apprécie. Et notamment, j'apprécie le fait qu'il se gonfle au premier lavage. Je trouve ça un petit peu magique en fait, de me dire voilà, il était un peu étriqué, un peu serré après la filature. Et puis là, il prend sa place, il prend son identité, il se gonfle et il est là quoi. Et ça, c'est chouette. Donc j'ai déjà fait ouais, quelques paires de chaussettes pour tester et j'aimerais bien également me faire un gilet à la main cette fois parce que c'est des points un peu particuliers et puis j'aime bien quand même tricoter à la main. Donc ça c'est un des projets que je me garde pour fin d'automne-hiver, me tricoter un petit gilet à la main. Et j'aimerais bien aussi essayer de le tisser. Ça, j'aimerais beaucoup. Ce qui s'est passé aussi, je l'ai un petit peu évoqué à la ferme, c'est donc mon salon pour la laine, les estivales de la laine à Autun, donc au-dessus de Sisteron. Donc j'y étais, eh bien je suis partie 4 jours parce que j'avais 7 heures de route, je sais plus. Et donc j'ai fait la route le vendredi. Je suis arrivée donc chez mon ami le soir. C'était très sympa de la revoir. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vue. On s'était rencontrés au lycée. On a été aider des paysans du coin à rentrer leurs petites bottes de foin. Et c'était très sympa ça. J'aimais bien cette ambiance paysanne très loin de chez moi. J'ai trouvé ça très sympa. Donc le lendemain matin, on est allé voir ses moutons et puis on a sorti ses chevaux, on est allé voir son jardin. C'était très paisible, très très agréable. Et le lendemain matin, Je me suis installée pour les estivales de la laine. Donc, je suis toujours très longue à m'installer. Je crois que je mets 2 heures. J'essaie la plupart du temps d'installer mon stand et de ne pas regarder à droite à gauche, de ne pas commencer à aller parler aux gens, aux autres exposants. Sinon, je sais qu'à midi, j'ai pas fini mon stand. Donc, j'ai installé mon stand tranquillement en bridant ma curiosité. Et le salon a, donc le, pardon, le festival a ouvert ses portes et c'était quand même assez calme. Il y a eu du monde, mais c'était assez calme. Donc j'ai fait un tour vraiment rapidement des autres exposants. C'était déjà très sympa ce petit aperçu. Il y avait plusieurs teinturières indépendantes. Il y avait des dames qui vendaient des fibres pour le filage. Il y avait également d'autres producteurs de laine qui, un petit peu dans le même style que moi, qui produisent la laine, la font transformer et la revendent eux-mêmes. Et donc c'était intéressant de voir toutes ces personnes et toute cette énergie autour de la laine, des fibres. Il y avait des artistes également feutrières. Enfin, c'était vraiment. Il y avait vraiment des exposants que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas, mais très très intéressants. Et puis il y a eu au niveau des visiteurs, des gens passionnés qui sont passés. On a parlé laine, tricot, on a également parlé élevage. C'était vraiment vraiment intéressant et riche. Et j'aime beaucoup ces rencontres, ces échanges et le fait que ça reste un petit peu petit et familial entre guillemets. Voilà, les organisateurs sont très très gentils, les bénévoles également. Enfin voilà, donc la première journée a été très très agréable et pour ne rien gâcher, il y avait des il y avait des paysans qui faisaient leur Alors en fait, je sais pas si c'est des paysans. Non, pardon. C'était des producteurs de glace. Et oh là là, elles étaient délicieuses. Donc ça, c'est le petit plus non négligeable. Et on était dans un environnement vraiment très très beau. Donc j'avoue que la route était une petite route de montagne. Bon, voilà, fallait avoir envie et mais c'était un cadre super. Voilà, on était dans un pré, dans de l'herbe, autour il y avait les montagnes. Voilà, vraiment vraiment chouette. Donc ça a été le samedi et donc le soir on est reparti avec donc mon ami voir ses bêtes, ses moutons, la voir travailler un petit peu et puis le soir on a arrosé son jardin. Face à la montagne, j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien de voir ce jardin, et ben juste pour elle, enfin un petit jardin familial et ça, je trouve ça joli aussi comparé, disons, au maraîchage où il y a des 30 mètres de carottes à désherber, où il y a des 60 mètres de patates à ramasser. Enfin voilà, c'était très sympa de voir ce petit jardin très mignon avec des fleurs et voilà. Et donc le lendemain matin, ça a été un petit peu chaotique parce qu'il y a eu je crois, de 9h à. Ou de 8h à 9h30, il y a eu un gros orage. Moi, j'avais par chance tout remballé dans le camion le soir, donc la veille. Mais il y avait des exposants qui avaient donc des barnums fermés. Et en fait, l'orage a un petit peu mouillé des produits. Il y a eu des grosses rafales de vent. Donc, il y a des barnums qui se sont envolés et cassés. Donc voilà, le dimanche matin, ça a été un peu. Il y avait des gens qui dormaient dans les tentes. Je pense que ça a été un peu réveil brutal. Mais donc, quand je suis arrivée là-bas, c'est vrai que c'était un peu. Voilà, les gens ne savaient pas, les exposants ne savaient pas s'ils remontaient leur stand, s'ils s'en allaient. Est-ce que. Et puis, il y a eu une malchance. En fait, la route tout le dimanche a été fermée pour une course de côte. Et le soir à 17h, il y avait le foot, la coupe la finale de la Coupe du Monde avec les Français, oui. Et voilà, le dimanche, ça a été très très calme au niveau des visites. Et y a, donc du coup, à cause de cet orage, il y a quelques exposants qui ont remballé parce que voilà, leur barnum et leur matériel étaient abîmés et leurs produits avaient un petit peu pris l'eau. Donc c'était assez clairsemé le dimanche et je crois qu'il n'y a pas eu grand monde. Alors pour moi, ça a été une journée très agréable parce que j'ai pu aller discuter avec d'autres exposants de leur métier, et de leurs envies, de leurs soucis, des réalités. Et ça, c'était très intéressant. Donc je suis quand même contente parce que moi, j'ai bien marché, j'ai bien vendu. Donc ça a été bénéfique pour mon entreprise. Alors ça, c'est mon avis, mon opinion. Je m'avance pas, mais je sais pas si les organisateurs étaient contents de de la fréquentation et voilà. Bon, après, c'était une première, c'était un petit peu excentré. Voilà, il existe un festival un peu semblable, le Lot et la Laine. C'est aussi dans un coin perdu, entre guillemets, mais c'est peut-être plus central. Voilà, là, les Alpes-de-Haute-Provence, c'était vraiment sud-est de la France. Mais moi, j'ai passé 2 jours de salon et 4 jours de jours de voyage et 2 jours de salon très très agréable. Et j'ai beaucoup aimé voir le travail des autres et la matière des autres. C'est vraiment merveilleux de qu'il y ait des gens qui produisent la laine, qui sont sensibles à ça, des gens qui fassent des teintures végétales ou non d'ailleurs. Enfin, voilà, qui mettent en valeur et qui à l'honneur cette matière qu'est la laine. Ça, c'était vraiment encourageant et fascinant. Lecture. Je vais pas être très originale parce que j'ai recommencé une saga. Alors, je continue Les Enfants de la Terre. Je suis au troisième tome ou quatrième. Le clan des mammouths, je crois. Mais j'ai commencé un autre livre que ma belle-mère m'a passé et je lui ai dit d'accord, je les veux bien, mais je ne les lirai pas avant cet hiver. Et bah, je sais pas pourquoi, un jour j'ai commencé un soir à lire et ça m'a emballée. Et voilà, je suis quasiment à la fin du premier tome. Il y en a trois. Et c'est vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre aussi facile à lire. Enfin voilà, je crois qu'il fait 600 ou 700 pages, enfin, je sais plus. Mais j'ai l'impression de. Ça se lit tellement bien et. Alors je vais peut-être vous dire le titre et vous lire un petit peu le résumé. Donc c'est Le goût du bonheur de Marie Laberge. Et le tome 1, ça s'appelle Gabriel. Donc je vais vous lire le résumé. Québec, 1930. Gabrielle est mariée avec Édouard depuis bientôt 10 ans. Entre la maison de l'île d'Orléans et celle de la Grande Allée, elle mène une vie bien remplie, entourée de ses 5 enfants. De toute évidence, il s'agit d'un mariage heureux. Mais cette chose qui devrait être si simple fait pourtant froncer bien des sourcils dans l'entourage de Gabrielle. Décidément, le bonheur est suspect en cette époque où notre sainte mère l'Église nous dit que nous ne sommes pas sur terre pour être heureux, mais pour accomplir notre devoir. L'élégante Gabrielle a bien du mal à se soumettre au code strict de la société bien sage et bien pensante. Et si c'était possible de changer le monde autrement que par la prière? Alors moi j'ai été, comme je vous l'ai dit, happée par ce roman et par cette écriture d'une fluidité, par la justesse des mots, par les descriptions des sentiments, des émotions. C'est vraiment. Et puis Gabrielle, donc l'héroïne de ce premier tome, est vraiment. C'est une femme vraiment simple et ça fait du bien de lire ses histoires, ses vies. Il est beaucoup question de religion dans ce livre, donc, et notamment de la place de l'Église dans les familles, de la place, disons, de la femme dans la famille aussi. Alors donc ça se passe au Québec dans les années 1930 et c'est drôle, je pense que ça doit être pareil en France et ça l'est peut-être encore dans certains milieux, c'est drôle comme l'Église n'a pas du tout à l'époque de considération pour la femme. c'est vraiment la femme qui doit être soumise à son mari, qui doit pourvoir au bonheur de son mari et de sa famille. Alors je sais bien que c'est romancé, bien sûr, mais ça devait être... Je pense que cette histoire est très réaliste et ça devait se passer comme ça, quoi. Donc les femmes qui ont beaucoup d'enfants parce qu'elles n'ont pas de moyens de contraception, enfin, c'est aussi la naissance un petit peu des suffragettes, donc le droit de vote, les femmes qui peuvent pas signer un contrat, enfin, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et donc Gabrielle, dans ce livre, c'est un petit peu la... Elle se pose des questions et elle a un peu un tempérament... indépendant. Donc leur famille et sa relation avec sa famille et son mari sont un petit peu différentes de ce qui se fait dans la société où elle vit. Et elle a deux sœurs dans ce roman, Georgina et Germaine, qui sont tout à fait différentes et qui, elles, sont restées un petit peu plus dans le moule dans lequel... Bah, elles ont été élevées et c'est intéressant aussi de voir la place des enfants. Et donc là, vers la fin de l'ouvrage, on voit un petit peu, donc c'est plutôt une famille, la famille de Gabrielle et Édouard et leurs enfants, c'est une famille aisée. Et en fait, Gabrielle s'occupe d'un centre pour des enfants un petit peu démunis. Et en fait, on voit bien la différence entre des classes aisées et des classes modestes, voire pauvres. Et dans ce livre, en fait, je me suis dit s'il y avait une chose à faire, autre que d'être paysanne, qu'est-ce qui serait le plus important pour toi? Et je pense que l'éducation, c'est primordial. C'est ça qui donne la liberté de penser et la liberté d'être quelqu'un aux enfants et aux adultes par la suite. Et je trouve que c'est vraiment un roman où l'époque où elle le fait se passer est très important. Elle décrit très bien les pressions, pas les pressions, mais les conventions sociales et religieuses de l'époque et qui néanmoins... Pour les gens, ils ont quand même des passions et il y a autre chose malgré tout qui les fait vivre et qui brûle en eux. Et ça, c'est vraiment, vraiment... voilà, c'est une fresque de l'époque au Québec d'avant-guerre qui est vraiment passionnante. Et je vous dis, c'est écrit d'une manière... Enfin, vous lisez ça comme... ça coule tout seul, c'est... Voilà, là, on a fait sûrement... Peut-être, on a passé peut-être 4 ou 5 ans avec eux, mais ça se passe de la saison d'été à la saison d'hiver. On voit les fêtes qui marquent de Noël, qui marquent les Pâques, qui marquent le temps qui passe. Enfin, c'est vraiment fluide et j'ai pas regardé si elle avait écrit d'autres livres, mais je vais peut-être m'intéresser à cet auteur, donc Marie Laberge, qui est vraiment... J'aime beaucoup cette écriture. Donc si vous voulez une autre saga à lire, c'est Le goût du bonheur de Marie Laberge. Et vraiment, je vous conseille ces romans. C'est pas très récent, ça doit avoir 20 ans, mais c'est vraiment, vraiment intéressant, je trouve. Et donc à la fin de cet ouvrage, on est dans les années 30, 34, je crois, 35, je sais plus. Et on voit un petit peu, elle aborde un tout petit peu le fait que les étrangers sont de moins en moins bien vus au Québec, et notamment les juifs. J'ai trouvé ça intéressant dans cette société. Finalement, l'Amérique du Nord, je trouve que c'est une société d'immigrants, d'immigration. Ça a été construit et modelé par ça. Et là, ce changement qu'elle fait apparaître petit à petit dans les pages de ce livre et qui va bien sûr nous emmener au tome 2 et certainement à la Seconde Guerre mondiale, c'est très subtil et très intéressant par les temps qui courent. Donc je vous le conseille. Curiosité. Donc comme je vous le disais dans le petit segment à la ferme, depuis peu j'ai redécouvert un intérêt pour le monde végétal. et notamment les plantes médicinales. Donc je sais pas exactement comment c'est venu. Ah si. En fait, j'ai découvert un site pour le savon, The Nerdy Farm Wife, et elle fait aussi des... Donc elle fait du savon, elle partage des recettes, et elle fait aussi d'autres préparations à base de plantes. Elle fait des infusions solaires pour ses savons, et des vinaigres avec des fruits, enfin voilà. Et en fait, je crois que c'est de là qu'est venu mon intérêt, ma curiosité pour les plantes médicinales et les baies sauvages. Donc je me suis intéressée à ça ces derniers temps et j'ai acheté un livre qui s'appelle Plantes médicinales, le guide du débutant de Rosemary Glaxstar aux éditions Marabout. Je vous mets le lien de tout ce dont je parle dans les notes pour cet épisode. Et donc j'ai acheté ce livre parce que c'est vraiment un livre pour débutants et voilà, moi c'est ce qu'il me fallait. Et aussi c'est un livre qui décrit donc les vertus thérapeutiques des plantes, qui parle de leur culture et de comment les utiliser. Voilà, ça a été à partir de là que je me suis réintéressée un petit peu aux plantes médicinales, à leur utilisation et voilà. Donc j'ai comme projet à l'automne de me préparer un petit jardin. Alors moi je dis de fleurs, mais d'herbes médicinales, aromatiques et de fleurs également. Et voilà, je faisais des recherches sur les plantes, disons, les plus communes et celles que j'utilise dans ma cuisine souvent, la menthe, les feuilles de framboisier, enfin. Donc j'ai fait, cette année, j'ai pris le temps de faire quelques récoltes. Donc de la menthe, de la camomille, des fleurs de cassis, des fleurs de framboisier. J'ai ramassé également de l'achillée. J'ai ramassé de la salicaire. J'ai ramassé de l'eupatoire à feuilles de chanvre. Enfin voilà, j'ai ramassé pas mal de plantes. Et je trouve ça très intéressant en fait de regarder autour de soi et de voir toute cette nature généreuse qui nous offre finalement des moyens de se soigner ou en tout cas des moyens de prévention à certaines maladies ou courantes. Notamment, il y a pour les rhumes, il y a énormément de plantes adaptées. Et donc, en me réintéressant aux plantes, je me suis intéressée à leur conservation et puis à leur utilisation. Et dans le livre Plantes médicinales, dont je vous parle, elle aborde. C'est un livre vraiment intéressant. Donc, pour débutants, si vous y connaissez déjà, il est peut-être un petit peu trop débutant. Mais en fait, pour moi, j'ai trouvé que c'était un livre très intéressant. Parce qu'elle explique donc, il y a des monographies de plantes, leur origine, leur culture, leurs propriétés. Elle explique aussi comment en fait conserver les plantes. Donc notamment elle explique préparer ses remèdes à base de plantes, comment créer sa pharmacie maison finalement. Et elle parle donc du séchage, pardon, pour faire des tisanes. Donc ça c'est plutôt la partie infusion pour préparer une infusion et elle explique comme ça toutes les différentes préparations donc les infusions elle explique les décoctions les sirops également elle explique comment faire des huiles infusées d'achillée par exemple ou d'ail enfin voilà. Des macérations à l'huile. Elle explique aussi comment faire des baumes. J'en achetais souvent à des producteurs de plantes. J'aime beaucoup les baumes comme ça. Et en fait, c'est assez facile à faire, assez rapide et je pense que c'est très bien. Notamment, moi, j'ai des problèmes au pied depuis qu'on est à la ferme, je pense, dû au stress. Et en fait, j'utilise une crème d'un producteur de plantes avec de la consoude, la cire d'abeille, l'huile essentielle de lavande, enfin voilà. Et dans ce bouquin, donc, il est expliqué comment faire un baume médicinal. Elle parle aussi des teintures et elle parle aussi des préparations pour faire des petites pilules. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Commencer à regarder autour de chez moi et à la ferme, reprendre mes livres de botanique du lycée, mes livres le livre des plantes médicinales, le livre des simples, enfin voilà, le livre des bonnes herbes. Et en fait, il y a énormément de choses autour de nous, très accessibles, faciles à faire sécher et qu'on utilise assez régulièrement. Enfin, je sais que la menthe, la kilée, la camomille, moi je me fais des tisanes tous les matins avec. Et j'ai trouvé ça vraiment. Je me suis dit, mais pourquoi t'as pas fait ça avant? Plutôt que d'acheter des thés ou je ne sais quoi. Il y a tout quoi, enfin, si on regarde un petit peu et si on arrive à faire abstraction de la nouveauté, du brillant, du goût qui nous sont proposés, c'est vraiment, les plantes sont vraiment riches et intéressantes. Et le fait, je pense, de les récolter, de les sécher, ça apporte quelque chose, quoi. Et j'avoue que sur le meuble de la cuisine, les petits pots de plantes séchées, c'est très joli. Alors il y a certaines plantes qui sont assez longues à récolter, notamment la camomille. Mais c'est une plante où voilà, vous mettez 3-4 fleurs par tasse, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Il y a des choses très simples à mettre en œuvre, très très faciles. Donc j'espère que... Dans le prochain épisode, j'aimerais vous parler de la conservation en fait des aliments et des herbes, parce que le fait de m'intéresser aux plantes, ben voilà, de fil en aiguille, j'ai découvert d'autres sujets. Et donc ce mois-ci, j'ai fait mes petites récoltes de plantes pour les tisanes et tout ça. Et j'ai également fait un vinaigre à la mûre. Donc ça, c'est pas vraiment médicinal, mais c'est plus pour le goût. Et j'ai également fait des teintures de sureau noir. C'était la première fois que j'en faisais. Et donc c'est très simple en fait. On a des sureaux ici naturellement qui poussent. Donc je vous donne la recette assez facile. J'ai pris un pot de 1 demi-litre, un pot le parfait d'1 demi-litre. Et donc j'ai cueilli du sureau noir, je l'ai égrené en fait, il faut juste mettre les petites boules et pas les tiges. J'ai été acheter pour la première fois de ma vie de la vodka pour faire cette teinture. Alors avant j'ai été en pharmacie en fait pour leur demander s'ils n'avaient pas de l'alcool disons spécial pour ça, et elle m'a dit que c'était très réglementé et que eux ne prenaient pas la licence pour vendre ce genre de produit qui s'élevait à 1 500 € par an. Mais bon, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui fait ce genre de truc. Donc j'ai été acheter de la vodka à 40 degrés pour faire ma petite teinture. Donc on met les baies de sureau, on recouvre de vodka. On ferme et on laisse macérer, un mois environ dans ce pot, dans un endroit ensoleillé. Et il faut remuer de temps en temps pour que ce soit uniforme et bien mélangé. Hier, le 1er septembre, j'ai filtré cette teinture et je l'ai mis dans des petites bouteilles bien fermées dans mon placard. Et donc ça c'est bon par exemple l'hiver quand vous sentez que vous commencez à être enrhumé ou quoi, vous mettez une cuillère à café dans un verre d'eau ou de jus ou de tisane et vous prenez ça. Voilà pour la teinture et les plantes. Donc il y a pas mal de petites choses assez faciles à faire et... Je vous invite à regarder autour de vous les fleurs auxquelles on ne pense pas, notamment la bardane. On peut faire de la bière de racines de bardane. Enfin voilà, on peut faire avec la racine de bardane, on peut faire des teintures aussi pour le foie. Enfin voilà, c'est très intéressant. Et je trouve que pour les petits maux du quotidien, ça suffit quoi. Enfin, donc après avoir lu ce livre et cueilli un petit peu ce qu'il y avait autour de moi, je me suis fait une liste des plantes que j'aimerais cultiver. Dans mon futur jardin de fleurs. Et j'ai bien aimé faire cette liste. Il y a des choses qui serviront pour les tisanes, pour les teintures, et d'autres qui serviront pour les infusions solaires dans le savon. Enfin voilà, les utilisations sont assez diverses. Et vraiment, je vous invite à aller voir ce livre par exemple, ou des sites tout simples d'herboristes ou de gens qui produisent des plantes médicinales, parce qu'ils ont souvent des recettes assez simples de baume, de tisane. Au fil du temps, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à notre portée de main. Et surtout, enfin, moi je pense que je m'arrêtais parce que j'avais peur de pas avoir assez de temps. Ou, enfin, mais ça prend pas longtemps vraiment et c'est agréable à faire. Donc voilà, si vous voulez avoir une petite cuisine d'apothicaire et vous intéresser aux plantes, vraiment je vous encourage parce que c'est un monde très joli et aujourd'hui on a beaucoup de connaissances sur la physique, la chimie des plantes et c'est très intéressant de connaître tout ça. Voilà pour le petit segment curiosité. Voilà pour ce cinquième épisode du podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous-même, vous avez passé un mois de juillet et un mois d'août agréable. J'espère que votre rentrée s'est bien passée également. Pour ma part, je vous laisse avec des idées de livres, des plantes à cueillir. Et je vous dis à dans un mois, je l'espère, pour un nouvel épisode. Un épisode de septembre, sûrement un petit peu plus automnal. Et j'espère avec de nouvelles découvertes, de nouvelles curiosités et des savoirs à approfondir. Vous pouvez retrouver ce podcast sur mon site l'atelierfibrolaine.com/podcast. Ou sur le site dédié spécialement à ce podcast en tapant journal d'une curieuse créative .libsyn.com. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, restez curieux.